On est en décembre 2015. Avec tes collègues, tu te trouves dans le sud-ouest pour enquêter sur l'installation d'un possible réseau colombien de cocaïne en France. Et en suivant ces narcos en voiture, un jour, vous vous retrouvez à Madrid, dans un quartier 100% colombien. Vous écoutez l'affaire B52, épisode 3. Tu es un peu perdu, qu'est-ce qui se passe après?
En fait, tu vois, comme je te l'expliquais, à ce moment-là, on n'a toujours pas ouvert d'enquête. On est là pour un rendez-vous préparatoire et sans qu'on se rende compte, en fait, c'est la filature qui nous mène jusqu'en Espagne. Donc on y passe 2-3 jours et on décide quand même à un moment, il faut bien prévenir nos homologues espagnols pour l'expliquer qu'on est dans une filature et sur une affaire de trafic.
Et ils sont comment ces homologues espagnols?
Donc on se rend dans le commissariat central de Madrid, dans un immense bâtiment. Et là, on est accueilli par le réfet. Tu vois, j'ai l'impression d'être dans un film des années 30, quoi. Le mec, un gros purée irlandais en laine, il ressemble un peu à Charles Ingalls. Donc on découvre aussi à ce moment-là qu'on n'a pas tout à fait les mêmes méthodes de travail entre eux et nous. Il y a un groupe qui est consacré au shit et l'autre à la cocaïne.
Et comment ça se passe concrètement, cette collaboration entre vous?
Donc de suite, on met au point une stratégie. Qu'à la base, on commence d'abord par sentir le cul. Tu vois, les flics, c'est un peu comme les clébards. On marche beaucoup au feeling. Ensuite, le but, c'était que, à court terme, on fasse une ECE. Une ECE, c'est une équipe commune d'enquête. Donc, à ce moment-là, le problème de ce type d'opération, c'est qu'on ne veut pas non plus perdre la main. Il y a des objectifs espagnols, et le moindre faux pas de nos collaborateurs peut littéralement affaiblir le dossier, voire le compromettre à jamais. Franchement, on est un peu parano, donc imaginons que les Colombiens ils changent de stratégie ou ils changent de route à ce moment-là, c'est fini, on perd l'affaire, quoi. Donc c'est un peu poker menteur, poker face. Après, on sait qu'on a besoin d'eux, donc on va devoir les solliciter sur des fichiers, sur des demandes d'entraide, donc comme on veut un peu le plus de liberté possible et pouvoir œuvrer sans qu'ils soient vraiment tout le temps derrière nous, parce que normalement c'est ça, du coup, il faut que ce soit un peu subtil comme rencontre.
Et qu'est-ce que vous apprenez pendant ces quelques jours que vous passez en Espagne, donc à propos de l'enquête que vous menez?
Pas grand-chose de plus qu'à Bordeaux et Biarritz, à vrai dire. On rentre au bout de 3 jours à Nanterre et on décide d'ouvrir une enquête préliminaire avec le parquet de Bordeaux, vu que c'est eux qui sont compétents sur leur ressort. Une fois que l'enquête est ouverte, la DEA, ils nous confirment qu'on est quand même sur un très gros réseau, et eux aussi commencent un petit peu à se délier sur ce qu'ils font, et on comprend qu'ils ont des ramifications à Chicago, à Miami et en Colombie. Donc là, de suite, tu comprends bien que Miami, Chicago, la Colombie, la France, c'est quand même un gros cartel. Et enfin, pour moi, en tout cas, à ce moment-là, là, c'est une vraie belle grosse coopération. Ils nous apprennent aussi qu'ils sont déjà sur le cartel depuis quelques temps et qu'ils n'arrivent pas à mettre la main dessus, que c'est très compliqué. Et ils ont vraiment besoin de la France à ce moment-là et de ce qui va se passer ensuite pour déclencher les hostilités. Et là, ils nous disent qu'ils ont à peu près entre 40 et 50 objectifs à interpeller en même temps le jour où on sera prêt de procéder au serrage de l'équipe, quoi. Parallèlement à ça et des infos qu'on commence à glaner un petit peu avec la DEA, ce qu'on fait, on commence à faire de la technique, donc bornage de téléphone, et on arrive à remonter sur des lignes un peu privilégiées. Ce qu'ils ont aussi, eux, à ce moment-là, ils se servent des PGP, c'est assez connu dans le milieu, c'est des téléphones cryptés avec une clé de cryptage. L'enquête, quand même si on a l'impression en surface que ça avance pas comme ça avançait avant, parce qu'on voit moins de choses, mais en vérité, on avance énormément derrière sur les lignes qu'on rebecte et tout ça, quoi. Là, on sait qu'on est rentré dans 8 mois un peu difficiles pour nous, quoi.
C'est-à-dire difficile?
Ben, on enchaîne les allers-retours entre Bordeaux, Biarritz, Madrid et Paris. On est sous pression parce qu'à chaque fois, on nous dit que il y a une première livraison qui doit être prévue, une livraison de test, et qu'on nous dit qu'à chaque fois, elle doit venir d'une semaine à l'autre, elle doit arriver là, quoi. Cette livraison de test, c'est quoi? C'est que les Colombiens doivent faire déjà rentrer une petite quantité de drogue pour voir et tester la route qui va être prévue plus tard. Tous les jours, on nous dit, ça va être chaud, c'est pour demain, c'est pour après-demain. Donc, imagine-toi un peu dans quel état d'esprit on peut être. On peut pas relâcher la pression. Donc là, ils ont du retard. Mais ils ont laissé des gars sur place dans le sud-ouest et en Espagne. Ça nous permet quand même de continuer à les surveiller. Donc, on les lâche pas trop, quoi.
Comment ça se passe avec ton épouse à ce moment-là? Tu viens de te marier et tu as un très jeune fils.
C'est dur parce qu'elle gère tout à la maison. Tu vois, elle prend le bain du gamin, elle fait les courses, elle fait tout. C'est ça le métier des stups aussi, hein. Quand tu es au stup et quand tu es officier de police judiciaire, tu ne peux pas parler de tes missions à ta conjointe, donc elle sait pas, elle est dans le fantasme en vrai de ta vie. Déjà parce que t'as pas le droit, mais aussi parce qu'on sait jamais, ça peut déjà compromettre une affaire, et aussi ça peut la mettre en danger, imaginons que ça vienne dans une oreille de quelqu'un. Donc comme tu peux rien partager, forcément ça crée des fantasmes.
Mais pourtant, j'imagine que tu lui avais expliqué au début de votre relation que ta vie professionnelle allait être très opaque.
Complètement, mais en fait, entre ce qu'on explique et ce qu'on vit déjà, le chemin est large. Alors au début, c'est un peu cool, tu pars en mission, ça fait un peu le mec, un peu Indiana Jones qui va créer quelque chose, mais au fur et à mesure, l'Espagne, puis tu restes longtemps, plus que prévu, donc elle commence à s'imaginer des trucs. Je pense que j'ai une liaison là-bas, enfin, direct, j'imagine que j'ai une double vie et j'enchaîne les allers-retours. Puis il faut dire, de temps en temps, à Bordeaux et Madrid, on fait un peu la fête, tu vois, aussi pour décompresser, donc des fois les appels, c'est un peu relou.
Et à quel point ça fait la fête alors en mission ?
Ben rien de bien méchant, mais tu vois, ça peut arriver, on boit des coups, quoi. On commence en plus à prendre nos habitudes, on a nos QG à Bordeaux, à Madrid, à Biarritz. Et même une fois, tu vois, ça a un peu dérapé. Je me rappelle, hein, sur une surveillance, on se retrouve à Madrid, on est sur un rendez-vous avec tous nos Colombiens, là. Et bien évidemment, comme ils font tout le temps, ils s'installent dans un steakhouse. Donc, à ce moment-là, les compétences sur place, c'est les Espagnols qui sont obligés de se charger de cette surveillance. Et c'est leur territoire, hein, donc c'est à eux de le faire. Mais nous, on supervise à côté de ça la filature. En plus, ils veulent nous montrer un peu comment ils taffent, quoi. Donc, ça roule un peu des mécaniques, nous, les stupes espagnols, voilà. Donc, on se met comme ci, comme ça. Donc, sur le coup, ça a l'air beau, mais bon, nous, on voit ça de loin. Et le seul endroit où on peut se positionner par rapport à ce resto-là, c'est un bar qui se retrouve en face. Et donc, t'as compris qu'on est, il est, je sais pas, 16, 17 heures. Donc, au début, tu commandes un coca, deux coca, trois coca. Puis, au bout d'un moment, c'est bon, les coca. Sachant qu'en plus, c'est pas nous qui étons maîtres de la filature. Là, ça commence, quoi. Il y en a un qui commence à dire, allez, vas-y, sers-moi un ginto. Puis, en Espagne, les gin toniques, c'est des demi-ballons de foot, quoi. Donc, t'en prends un, t'as compris l'état immédiat dans lequel on peut se retrouver. Donc, l'erreur fatale. Un ginto, deux ginto. Puis, ça dure jusqu'à 1h du matin, quoi. Donc, à un moment, t'as un peu la bouche endormie, quoi. Donc, on se retrouve, on est un peu joyeux, quoi. La nuit avance, et là, je me rappelle du truc, c'est que plutôt que de se mettre avec un sous-marin un peu loin, de prendre les mecs en filoche et de les prendre en photo comme on fait, quoi, sans se faire voir, là, je te vois un Espagnol arriver avec son téléphone portable en face de tous les gringos chauds comme la braise, en train d'essayer de les filmer. Il n'y avait que eux et lui dans la rue. Donc, on était obligé d'aller le voir. Je me rappelle, je l'ai attrapé par le callback et je lui ai dit, allez, sors de là, dégage, va voir ailleurs si j'y suis. Ça lui aura pas trop plu d'ailleurs, mais bon, à un moment, c'était comme ça. Et en plus, ce soir-là, il fallait qu'on balise une voiture avec eux. Donc, ça a mis une petite tension supplémentaire. On a quand même réussi à baliser une voiture et on a fini à boire un coup tous ensemble à la fin. Donc, voilà. Bon, elle n'était pas très beau à voir à la fin.
Mais en dehors des Ginto, vous arrivez à bosser quand même ?
Mais bien sûr, tu vois, même, c'est super intense. On a des écoutes, ça commence un peu à discuter. On commence à identifier des gens, tu vois, des intermédiaires. On surveille des réunions, on commence à avoir des Espagnols aussi au milieu. On récupère des identités. Voilà, un soir, on tombe sur un gars. C'est un des hommes de main du cartel qu'on a su après. Voilà, on a surnommé le Sicario parce que c'était son métier premier. Mais du coup, ça commence à sentir très bon, quoi. À côté de lui, on identifie un autre mec, donc avec la DEA en direct, là, on voit que c'est le chimiste de la bande, qui est là exclusivement pour les livraisons. Et lui, en fait, il vérifie deux choses, c'est que déjà, sur la route, il veut voir qu'il n'y a pas eu de vol, donc une fois que la cam est partie de Colombie, il la récupère et il teste ce qu'il a pour voir qu'il n'y a pas eu d'échange et qu'il n'y a pas eu de souci. Donc première garantie. Et la deuxième, c'est que s'il y a des clients, il peut montrer aussi la qualité qu'il a. Lui, il est là aussi pour pouvoir acheminer un petit peu l'argent via des comptes un peu offshore ou des banques obscures dans le monde, quoi. Voilà. En plus, là, on appelle les officiers de liaison qui sont en Colombie.
C'est quoi, les officiers de liaison ?
Bon, en fait, les officiers de liaison, ce sont des fonctionnaires de police comme nous, qui travaillent avec nous à la base. Comme ils parlent espagnol et qu'ils ont des prérogatives particulières aussi familiales aussi, pour partir dans ces pays-là. Et en fait, ça nous permet de faire le lien entre nos affaires et les narco-états. Bon, on a un peu des officiers de liaison un peu partout dans le monde, hein. Ça peut aussi parler sur l'immigration comme sur d'autres affaires. Et là, du coup, nous, nos collègues officiers de liaison coup, on les met un petit peu sur le devant de la scène, quoi, sur ce projet-là, quoi. Et du coup, ils nous aident pas mal, quoi.
Et qu'est-ce que la DEA vous dit à ce moment-là?
Du coup, ils nous confirment que ces mecs-là sont des gars hyper connus et super chauds de Colombie. Et là, je me rends compte qu'on est sur le cartel de Medellin.
Et c'est quoi l'état du cartel de Medellin en 2016?
Bon, alors attends, je te rassure de suite, ça n'a rien à voir avec 80 et Escobar. Hein. Là, il a perdu un peu de sa superbe, quoi. On sait que les narcos de Medellin ont des routes aux États-Unis, ça fonctionne, hein, je veux dire, il s'est jamais vraiment arrêté. Mais à ce moment-là, et c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'ils veulent s'implanter en Europe et inonder le marché. Il y a un vrai marché à prendre. Ils veulent recréer leur route d'époque avec leur réseau, quoi.
Et si on revient au sud-ouest et à notre sicario, donc après 8 mois d'enquête, on est en septembre 2016. Qu'est-ce que vous apprenez?
On finit par apprendre que les Colombiens cherchent une villa dans la région de Biarritz, Bayonne, dans le secteur, pour assurer une première livraison. Un échantillon, en gros, pour voir comment le transport aérien et l'acheminement sur les routes vont se passer. Tout gérait-il que notre sicario et son pote logent dans le grand hôtel à Biarritz et écument les villas de la côte. Leur but, c'est de ne pas être loin d'un aéroport. L'aéroport privé d'Anglette, par exemple, quoi. Et d'être un peu caché. Là, je peux te dire que ça commence à sentir très bon. En plus, ils échangent maintenant avec un téléphone qui n'est pas un téléphone crypto, on appelle ça un téléphone de guerre, un jetable, quoi. Donc, on a des conversations traduites par les flics qui parlent espagnol et des traducteurs. Et on a les écoutes, en direct. Donc, alors pour nous, plus question de rentrer à Paris, tu vois, et on reste sur place. Je peux te dire que là, la pression, elle monte. La villa est louée et les premiers mecs débarquent, quoi, le 9 octobre, je m'en rappelle, 2016. Pour préparer le premier arrivage et la livraison test. Et là, on nous donne une date et un nombre. 16 octobre, 100 kilos de cocaïne.
L'affaire B52 est une série de Paradiso Média, écrite par Constance Villanova et Antoine. Anne-Cécile Kiri est productrice, Louis Daboussi est directeur éditorial, Tim Dornbush et Théo Albaric ont monté les épisodes, John Bose a réalisé les épisodes et composé la musique, Claire Français est responsable de production, Lucine Dorso et Amy Faconnier sont chargées de production, l'illustration est de Luc Grieux, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre sont producteurs délégués.